VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le vendredi 2 juin 2023 et il est 17h30 en temps universel. Bienvenue, vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Jacques Aristide à la une de l'actualité. Au Sénégal, le pouvoir déploie des forces armées dans Dakar au lendemain des troubles meurtriers après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko.
Des ruelles jonchées de pierres, des infrastructures en ruine, une institution balafrée et des étudiants qui traînent leurs valises et sacs pour rejoindre leur famille.
Les bombardements se poursuivent au Soudan malgré les sanctions américaines contre l'armée et les paramilitaires. Renforcer encore l'Ukraine est la seule voie pour une vraie paix, affirme le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les États-Unis ont pu éviter in extremis la menace d'un défaut de paiement. Et comme à l'accoutumée, les nouvelles sportives et économiques à venir dans 10 minutes environ. Le gouvernement sénégalais a déployé des forces armées dans Dakar aujourd'hui, au lendemain d'un déchaînement de violence qui a fait au moins 9 morts, après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'État du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens, a déclaré hier soir le ministre de l'Intérieur Antoine Diom, au terme de l'une des journées de contestation politique les plus meurtrière depuis des années dans le pays. Nous retrouvons notre correspondant Sedina Bagueille en direct de la capitale sénégalaise. Bonsoir Sedina, quelle est la situation ce vendredi?
Bonsoir Jacques, la situation est assez calme ce vendredi, même s'il y a des manifestations sporadiques qui continuent un peu partout dans la capitale. Dans la banlieue à Pékin, il y a carrément des affrontements assez violents entre les forces de l'ordre et des militants pro-Ousmane Sonko. Mais la situation d'hier, par rapport à hier, la situation est quand même assez calme.
Merci beaucoup, Sedina, pour ce point sur ce qui se passe au Sénégal. Sedina Bagueille, vous étiez en direct de Dakar. D'autres réactions avec vous tout à l'heure dans notre partie magazine. Merci. En Guinée-Bissau voisine, quelques 884 000 électeurs sont attendus aux urnes dimanche pour des législatives dont le chef de l'État, Oumaro Sissoko Embalo, veut se servir pour changer la constitution de son pays abonné aux crises politiques. Il a été victime d'une tentative de coup d'État le 1er février de l'année dernière. Le président Embalo, actuellement à la tête de l'Organisation des États Ouest-Africains, avait dissous le Parlement en mai 2022, devenu selon lui un espace de guérilla politique et de complot. Il s'agit d'un scrutin à la proportionnelle à un tour, devant renouveler les 102 députés et sortir de la paralysie politique actuelle. Les résultats sont attendus au moins 48 heures plus tard. 22 partis politiques vont se disputer le vote. Les ambassades d'une quinzaine de pays à Kinshasa appellent à des élections pacifiques et transparentes à la fin de l'année en République démocratique du Congo. Dans une déclaration conjointe publiée aujourd'hui, elles évoquent leurs préoccupations sur plusieurs points. Un peu plus de 6 mois des élections présidentielles, législatives, provinciales et communales prévues le 20 décembre. La tension commence à monter, en particulier depuis la répression d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dernier dans la capitale. Nous réitérons notre volonté d'accompagner la RDC et la population congolaise sur la voie d'élections compétitives, pacifiques, inclusives et transparentes, écrivent les signataires, dont les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni, ainsi que la délégation de l'Union européenne. Toujours en RDC, au moins 9 villageois ont été tués hier soir et un autre grièvement blessé dans le Nord Kivu lors d'une nouvelle attaque attribuée aux ADF, rebelles affiliés au groupe État islamique. D'après le baromètre sécuritaire du Kivu, plusieurs habitants sont également portés disparus après l'assaut dans le village de Mouseya Kanya Mutsutsa, dans le territoire de Beni. Outre les otages, les assaillants ont emporté du bétail et du matériel. Au Soudan, les combats se poursuivent ce vendredi après l'échec des pourparlers sur le maintien de la trêve. Le point avec Jean-Roger Billon.
L'artillerie lourde continue de faire trembler Khartoum malgré les sanctions américaines contre l'armée et les paramilitaires qui semblent préparer une escalade dans leur lutte pour le pouvoir. Après cette semaine de guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo qui ont fait plus de 1800 morts et plus d'un demi-million de déplacés et de réfugiés, Washington a haussé le ton. La Maison-Blanche a annoncé des sanctions contre deux entreprises d'armement de l'armée et deux sociétés, dont l'une opérant dans les mines d'or du Soudan tenues par le général Daglo et deux de ses frères. Le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont affirmé que les pillages ont perturbé l'aide, appelant les deux parties à respecter le travail des agences humanitaires.
En Éthiopie, des affrontements ont éclaté aujourd'hui après la prière musulmane près de la plus grande mosquée d'Addis Abeba entre les forces de l'ordre et des jeunes fidèles furieux de la destruction de mosquées dans le cadre d'un projet urbain. Des nouvelles frappes de drones ont visé aujourd'hui des sites de contrebandiers présumés à Zouara en Libye, près de la frontière avec la Tunisie, dans le cadre d'une vaste opération militaire anti-trafiquant menée depuis le 25 mai dernier. L'Afrique du Sud a éludé les questions sur un prochain voyage chez elle du président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du groupe des BRICS marquée par le contexte de la guerre en Ukraine. Des diplomates des cinq pays qui composent les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, étaient réunis au Cap pour une deuxième journée de pourparlers en amont d'un sommet prévu en août. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Annalidi Pandor, a esquivé une salve de questions sur l'invitation émise par proposant à Vladimir Poutine de venir en Afrique du Sud lors de ce sommet. L'invitation a été formulée avant qu'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale visant le maître du Kremlin ne soit ordonné. Membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censé arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. Or, les deux pays entretiennent des liens étroits. Un tribunal de Nairobi a suspendu ce vendredi le licenciement de modérateurs de contenu sur Facebook par la compagnie Sama, un sous-traitant au Kenya de Meta, la maison mère du réseau social visé par deux autres plaintes. Un groupe de 141 salariés de Sama basés dans la capitale kenyane se sont joints à une plainte initiale déposée en mars dernier par 43 de leurs collègues dénonçant leur licenciement illégal. Le juge Biram Ongaya a déclaré que Meta et Sama sont empêchés de résilier les contrats. Meta devra également fournir des soins médicaux, psychiatriques et psychologiques appropriés aux pétitionnaires et aux autres modérateurs de contenu Facebook. Le géant américain Meta, qui détient également Instagram et WhatsApp, a fait part de son intention de faire appel.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont suspendu le plafond de leur dette et écarté à quelques jours après le danger d'un défaut de paiement. Le Sénat américain a adopté hier soir un projet de loi déjà approuvé à la Chambre des représentants. Les détails avec John Linden.
C'est une grande victoire pour l'économie et pour le peuple américain, a salué le président Joe Biden. La secrétaire au Trésor Janet Yellen, dans un communiqué, s'est dit ravie de ce vote. C'est pour éviter un scénario aux répercussions catastrophiques que le président démocrate Joe Biden et le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont conclu un compromis. L'accord a déjà été approuvé mercredi soir par une grande majorité des élus de la Chambre des représentants et il est passé au Sénat hier dans une sorte de procédure accélérée. Il revient désormais à Joe Biden de le promulguer. Une simple formalité que le dirigeant démocrate s'est dit impatient de remplir. Selon le Trésor américain, la première puissance économique mondiale avait jusqu'à lundi pour éviter le défaut de paiement.
Le chef de la diplomatie américaine affirme que la seule voie pour parvenir à une véritable paix est de continuer à armer et renforcer l'Ukraine. Selon Anthony Blinken, l'invasion russe a été un échec stratégique pour Moscou et il rejette toute idée de cesser le feu qui serait défavorable à Kiev. Le point avec Eric Manirakidza.
Dans un discours en Finlande, Anthony Blinken a fait valoir qu'une Ukraine forte est un prérequis pour une vraie paix, en vue de dissuader de se défendre en cas de future agression. Selon Washington, l'invasion de l'Ukraine ordonnée par le président russe Vladimir Poutine est un cas d'école de l'échec et même d'un échec stratégique pour la Russie. M. Blinken a relevé les pertes russes sur le terrain et sur les marchés européens. Son discours vise à afficher une position claire des États-Unis au moment où certains pourrait être tenté d'appeler à un armistice ou à un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain a également nié que la guerre en Ukraine ait détourné les États-Unis de leur rivalité et de leur confrontation croissante avec la Chine. Selon lui, les États-Unis sont devenus plus attentifs à la menace chinoise depuis l'invasion de l'Ukraine.
Voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Togo a signé deux accords avec le Maroc pour la mécanisation de l'agriculture et la production locale d'engrais. Ces accords ouvrent la voie à une étude de faisabilité pour implanter une usine d'engrais phosphatés dans le pays avec l'appui en expertise et en technologie de l'opérateur marocain. Le pays avait fait appel en 2019 au groupe nigérian Dangote pour la transformation locale des phosphates. Le président de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, Jean-Baptiste Ondaï, a effectué une visite de travail à Bangui hier. Il a été reçu par le président Faustin Archange Touadéra, qui dirige actuellement la conférence des chefs d'État de la CEMAC. À l'issue de la rencontre, M. Ondaï, par ailleurs ministre de l'Économie et des Finances de la République du Congo, a déclaré que les échanges ont porté sur la dynamique entre les pays de la CEMAC au plan monétaire et financier. La Société financière internationale a approuvé un crédit de 5 millions de dollars à Interbank Burundi. La facilité accordée permettra à la banque commerciale d'accroître son soutien aux entreprises burundaises d'import-export qui vont ainsi générer des devises. L'an dernier, la SFI a conclu un partenariat technique avec la banque burundaise pour renforcer sa capacité à servir les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 50% des emplois dans le pays.
Et maintenant les sports avec Eric Manirakidza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jacques.
Parlons de la Coupe d'Angleterre. Manchester United veut barrer la route du triplé à City.
Seul club anglais de l'histoire à avoir remporté championnat, coupe et ligue des champions la même saison en 1999. Manchester United voudra tuer dans l'œuf les espoirs de City de limiter cette année lors de la finale de la Coupe d'Angleterre samedi, c'est demain à Wembley. Si les Red Devils s'échouent dans la première finale de l'histoire opposant les deux rivaux mancuniens, leur dernier espoir sera de voir l'Inter Milan remporter la Champions League une semaine plus tard à Istanbul.
Ligue Europa, Eric, procédure contre Mourinho pour langage insultant envers l'arbitre.
Les poursuites disciplinaires de l'UEFA visent également les deux clubs pour une série d'infractions plus habituelles sur la scène européenne. Envahissement du terrain, jet de projectiles, allumage de fumigène et comportement incorrect de l'équipe côté Séville. Et jet de projectiles, allumage de fumigène, dégradation, mouvement de foule et comportement incorrect de l'équipe s'agissant de l'AS Rome.
Amical Argentine-Australie en Chine, jusqu'à 630 euros pour voir Messi, Eric.
Tout à fait Jacques, les fans chinois de football auront à payer jusqu'à 30 euros pour voir Lionel Messi jouer à Pékin le 15 juin lors du match amical entre Argentine et Australie, ont indiqué ce vendredi les organisateurs. Le choc sera une revanche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde organisée au Qatar fin 2022, où l'Albicéleste l'avait emporté 2-1 contre les Soceros.
Foot féminin, les faibles ventes de billets pour la Coupe du Monde inquiètent en Nouvelle-Zélande.
La FIFA a annoncé ce vendredi la mise en vente d'environ 250 000 billets supplémentaires pour la Coupe du Monde de football féminin qui se déroule du 20 juillet au 20 août, alors que les ventes en berne pour les matchs disputés en Nouvelle-Zélande suscitent des inquiétudes en marge de la vente des billets. La FIFA, qui s'inquiète d'un désintérêt pour le foot féminin, a récemment exhorté les chaînes de télévision à mettre plus de moyens sur la table pour acquérir les droits de retransmission du tournoi, alors que plusieurs pays, dont la France, n'ont toujours pas de diffuseur. Un nouveau lot de billets sera mis en vente mardi pour les 64 matchs organisés en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Et pour terminer, Eric, finale NBA, les Nuggets remportent la première manche.
C'est dans le dernier carton que Denver a maîtrisé Miami sur son parquet pour remporter la première manche de la finale de la NBA. C'était hier soir. Pour leur première à ce stade, en 47 ans de présence dans la Ligue, les Nuggets n'ont pas été paralysés par l'enjeu serein, comme leur double MVP serbe Nikola Jokic, qui est monté en puissance dans ce premier match, faisant d'abord briller ses coéquipiers.
L'actualité sportive, Eric Manirakidza, merci beaucoup. Il est l'heure maintenant de vous proposer notre tranche magazine dans Le Monde Aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Et retour au Sénégal, où les autorités ont déployé ce vendredi des hommes en tenue et armes de combat dans la capitale. Après le déchaînement de violence d'hier, beaucoup redoutent un embrasement si le pouvoir a fait arrêter l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle, condamné à 2 ans de prison ferme. De Dakar, le reportage de notre correspondant, Sédina Bagueille.
Des ruelles jonchées de pierres, des infrastructures en ruine, une institution balafrée et des étudiants qui traînent leurs valises et sacs pour rejoindre leur famille. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les scènes de chaos d'hier ont laissé place à la désolation. Cet étudiant, qui a requis l'anonymat, témoigne.
L'unique responsable pour moi, c'est le président de la République. Parce qu'à un moment donné, les gens sont allés jusqu'à un moment où on est frustré. Les gens n'ont pas le choix. Parce que la personne, quand elle est en colère, la seule chose qu'il aura à faire, c'est de déverser sa colère, de montrer son désaccord. Pour moi, c'était justement ça. C'est la raison pour laquelle, ici à l'université, les gens ont quasiment tout brûlé. Donc c'est énorme les dégâts qui se sont posés l'année dernière, hier. Donc c'est vraiment regrettable pour un pays comme le Sénégal, où sur le côté démocratique, on a été un exemplaire en Afrique et quasiment partout dans le monde entier.
Exemple réputé pour être un havre de paix et de stabilité sociale en Afrique, le Sénégal a relativement surpris les étrangers qui y vivent. Ahiar, étudiant béninois de l'école de médecine vétérinaire, ne cache pas la peur qu'il a ressentie hier. Il prie pour un retour rapide à la cohésion sociale.
Bon, quand même, c'est de la panique. Hein. Moi, j'ai ressenti une panique. Donc, ce qui s'est produit, voilà, et tout, vraiment, vraiment, c'est désolant. Parce que moi, c'est la première fois que je vois ce genre de manifestation-là. Bon, avant, donc, la manifestation de 2021. Je souhaite à ce que toutes les têtes pensantes du Sénégal, ainsi que les autorités religieuses aussi, donc, qu'ils s'assoient, qu'ils fassent une assise, voilà. Une assise nationale pour discuter sur ces sujets-là, en fait, pour qu'il y ait un retour à la paix du Sénégal.
Après une journée à feu et à sang à Dakar et dans plusieurs villes du pays, un calme précaire est de mise, même si certaines zones sont toujours le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Pour limiter les débordements, l'armée a été déployée sur plusieurs axes stratégiques. Sédina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la distribution de l'eau potable à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, connaît un dysfonctionnement. Depuis des semaines, bon nombre de foyers peinent à avoir le liquide précieux. Des habitants font part de leur ras-le-bol. Par endroits, l'eau sort au compte-goutte des robinets. Le reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Plusieurs quartiers de Yopougon sont confrontés à une pénurie d'eau. Les habitants vivent cette situation depuis plusieurs semaines, voire 2 mois. Dans le quartier Ananure-Oasis, des voix se lèvent pour décrier cette situation.
Il n'y a pas l'eau dans le robinet, on fait comment? L'eau, on est en train de prendre là. On monte jusqu'au 3e avec. Oh, aussi, les jeunes qui viennent nous livrer aussi les bidons d'eau là. Ils nous prennent un bidon à 250 ou bien 300. On souffre trop, c'est trop. L'État n'a qu'à voir.
On vit cette situation là, vraiment, c'est difficile. Il y a des jours même là où on paye l'eau là, mais il n'y a pas l'eau. Souvent même là, tu peux faire une journée sans te laver.
Depuis que je suis dans ce quartier, on a problème d'eau. Mais quand on se réveille la nuit, on gagne un peu d'eau pour puiser. Mais ça va pratiquement 5 mois. Depuis dans le mois de décembre, janvier jusqu'au actuellement, on n'a plus l'eau.
Comment faire quand on sait que l'eau est indispensable à la vie, ces femmes qui habitent des immeubles révèlent comment elles se débrouillent pour s'approvisionner en eau dans d'autres quartiers.
Je m'allais chercher l'eau dans autre quartier. Et puis je dis, je mets dans trois roues là. Monter taxi là, je viens de faire descendre. Tout le monde n'a pas les moyens. Je ne peux pas payer les gens pour faire monter chez moi. Donc nous-mêmes, on prend. Donc c'est ça qui m'a rendu malade.
On payait l'eau, on payait les centaines de dollars. Ceux qui étaient à l'immeuble, on les vendait à 7 000 francs pour faire monter. Nous, on en bas, on vient déposer les fuites d'eau, 5 000. Et puis nous-mêmes, on chargeait, voilà la maison.
Comment en est-on arrivé à cette situation? Le directeur général de la SODECI, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Amadou Bakayoko.
Les eaux de ruissellement venant donc d'Abobo, en très grande quantité avec les intempéries, ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent donc depuis trois jours.
Et les travaux se poursuivent sur le terrain pour réparer la conduite d'eau qui transporte plus de 30 000 mètres cubes d'eau par jour. Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.
Dans les prochaines 48 à 72 heures, je pense qu'elles auront fini. Peut-être un peu une autre journée pour faire des réglages, faire du rinçage des tuyauteries et puis la situation va revenir à la normale, enfin, situation avant l'incident.
En attendant, les camions citernes de l'Office national de l'eau potable, ONEP, essaient de pallier à la situation, mais ce n'est pas suffisant.
Moi-même, m'a pas servi au Sénat, gris-gris, mais moi-même, il y a eu ça. C'est dans l'air, tiré, tuyau, là, qu'il y a eu petit dans ma bassine, là. Et non, depuis là, on ne m'a pas encore servi. Depuis deux heures. Là, là, ça ne peut rien faire. Il y a beaucoup d'enfants à la maison.
En attendant donc la desserte totale des quartiers en eau, ce sont les petits chauffeurs des tricycles et des jeunes à brouettes qui se frottent les mains en vendant dans les ménages. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République centrafricaine, les élections locales qui étaient prévues pour le 16 juillet ont été reportées sine die. Elles n'ont pas eu lieu depuis au moins 15 années et cette semaine, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel qui lui permettrait de remettre les compteurs à zéro et pouvoir se représenter pour un troisième mandat. Idriss Fall a recueilli la réaction de l'ancien Premier ministre Anicette Deloguélé du Bloc républicain pour la défense de la Constitution centrafricaine.
Une fois de plus, il se moque de la population. Nous sommes parmi les derniers pays les moins développés au monde. Nous avons besoin de tout. La population est démunie de tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est un référendum pour s'éterniser au pouvoir. Un référendum, c'est une opération électorale qui coûte cher. Avec l'argent de ce référendum, il peut régler beaucoup de problèmes dans les hôpitaux, des problèmes de survie de dizaines de milliers d'enfants. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est rester au pouvoir sans résultat. Donc je trouve ça très malheureux.
Par ailleurs, on a entendu un ambassadeur centrafricain à Moscou dire que le pays voudrait accueillir une base militaire russe.
Ça n'engage que l'ambassadeur. La Russie est un pays en guerre. Je pense qu'ils ont besoin de leur militaire en ce moment là-bas. L'installation d'une base militaire, ce n'est pas un ambassadeur qui le décide. C'est quelque chose qui se situe au niveau de l'Assemblée nationale. Peut-être dans son enthousiasme, l'ambassadeur a voulu faire plaisir à ses patrons. Mais c'est une déclaration qui n'engage que lui.
Quand même, il y a une certaine présence russe actuellement en Centrafrique.
Les Russes étaient réputés venir juste pour former les militaires centrafricains dans le maniement des armes qui ont été livrées sur autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, avec l'attaque de Bangui par la CPC, ça leur a donné un prétexte pour venir en masse et sous le prétexte de mettre de l'ordre, ce qui les intéresse beaucoup plus. Ils sont dans les mines, dans toutes les ressources du pays, qu'ils se servent bien.
Le gouvernement annonce la tokenisation des ressources de Centrafrique.
Je pense que même ceux qui ont écrit la loi n'ont pas compris ce qu'était la tokenisation. Et s'ils l'avaient compris, dans l'état actuel des infrastructures de notre pays, dans l'état actuel des ressources humaines dans notre pays, dans l'état actuel de l'organisation de l'administration de notre pays, parler de tokenisation des ressources naturelles, des ressources forestières, des ressources foncières, ce qu'aucun autre pays n'a fait avant nous, tout ça, c'est se moquer de la population. c'est une volonté de mafia. Les autorités ne sont préoccupées que par le gain facile de l'argent. Rien n'est prévu pour le trésor public. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont écarté complètement le ministre des Finances de tout le processus de cette loi. Il n'y a rien dans la loi qui fasse le lien entre cette procédure-là et les recettes de l'État. Donc on voit très bien que c'est une loi qui n'est pas faite pour la République centrafricaine, mais qui est faite pour exploiter, pour piller la République centrafricaine.
L'ancien Premier ministre centrafricain, Anicet Deloguélé, du Bloc républicain pour la défense de la Constitution en Centrafrique.
This is the voice of America. Washington, Babamboset, D.C.
Ici, aux États-Unis, le spectre d'un défaut sur la dette a été écarté par le Congrès du pays. Après la Chambre des représentants, le Sénat américain a approuvé hier soir l'accord entre les républicains et les démocrates sur la suspension temporaire du plafond de la dette, évitant ainsi un défaut de paiement qui aurait été inédit et aux répercussions catastrophiques. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à New York le politologue Mohamed Mbodj.
Au fond, c'est le status quo qu'on va préserver. Ensuite, c'est pour 2 ans, peut-être, on ne va pas débattre de ce problème. Et les 2 extrêmes de ces partis, républicains et démocrates, se sont fait entendre par leur base, d'une certaine façon, pour bien montrer donc leur bonne volonté, leur capacité de lutter. Mais en fin de compte, la logique, disons, législative du milieu a prévalu.
Est-ce que l'essentiel n'était-il pas d'éviter le défaut de paiement aux États-Unis, puisque le président a dit que c'est la victoire de l'Amérique?
Ah oui, tout à fait. Cette limite de la dette américaine a été automatiquement levée sous tous les présidents, à quelques exceptions près. En particulier sous Trump, ça n'a jamais fait l'objet de débat. Mais c'est une crise qui est très dangereuse, parce que si les États-Unis ne payent pas leur dette, ne paye pas les engagements, évidemment, ça veut dire que sa situation financière n'est pas aussi positive et ça peut entraîner une dégradation de sa cote, de sa notation de crédit. Et à partir de ce moment-là, le crédit va devenir plus cher, le crédit va devenir plus rare, le dollar serait tombé un peu plus, les cours de la bourse auraient suivi. Donc, c'est effectivement une crise majeure qui a été évitée. Mais encore une fois, c'est une crise majeure qu'on a créée de toutes pièces pour pouvoir ensuite l'éviter.
La résolution telle qu'elle a été faite ouvre un chemin de compromis entre la droite et la gauche. Est-ce que c'est une porte ouverte pour les prochains compromis?
Oui, je pense bien, parce que là, c'est une manœuvre où il y avait un temps limite qui était en dehors du pouvoir du Congrès, donc les dates fixées. Le trésor américain était très clair, et très ferme et très net. Et donc, de ce point de vue-là, les acteurs ne pouvaient pas s'aménager des espaces, prolonger les délais, jouer les prolongations, les arrêts du jeu, tout ça. Donc, en fin de compte, ça veut dire qu'il y a bien une maîtrise de ce balai législatif qu'on va peut-être répéter dans d'autres cas et dans d'autres circonstances. Donc, ça montre que Biden et McCarthy peuvent coexister. Un parti républicain qui vient très fortement à droite, qui est très populiste, etc., entraîné par Trump, est suffisamment capable de, disons, de regarder au-delà de l'horizon immédiat pour pouvoir gouverner en entente avec le parti démocrate et donc au centre.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagneau. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe de la production et de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.